sur le 92.2.
Il est l'heure de coutume, le rejure.
C'est la montée des eaux dans le studio.
Et c'est le réchauffement climatique.
Non, c'est la clim qui a pété.
Bras, zéro déchet.
Et mais il y a un ours polaire qui arrive là. Vous l'aurez tous et toutes comprises, cette émission portera sur le thème...
Des ours polaires ?
Non, pas du tout. Il s'agit du réchauffement climatique.
Ouais, mais ça existe ça ?
Eh bien justement, au vu des nombreuses polémiques qui entourent cet épineux sujet, notre équipe de reporters de choc s'est rendue à tous les coins de la planète pour trancher. Ça va saigner.
Au programme de ce soir, des invités exceptionnels de passage en France.
Des personnalités politiques radicalisées qui témoignent anonymement au micro de Bras Zéro.
Une carte postale d'Amérique centrale.
Des paysans habitant les Cévennes et le Pays Basque.
Un micro-trottoir sur tous ces petits gestes censés nous sauver ou nous noyer.
Une chronique sur notre vieux monde capitaliste qui se réchauffe.
Et comme le veut la tradition,
le célèbre conte de Bras Zéro.
En espérant pouvoir terminer l'émission avant les catastrophes climatiques à venir, bonne écoute sur Canal Sud.
Putain, mais il pleut dans le studio.
Ah mais ça, c'est le réchauffement climatique.
Le dérèglement.
Putain, mais il fait trop chaud dans le studio.
Non, mais ça, c'est le dérèglement du chauffage.
Mais il neige dans le studio.
Ça, c'est une fuite.
Pas du tout, c'est le réchauffement climatique.
Bras zéro déchet.
Bon, et pour commencer...
Salut la brette.
Et pour commencer donc en beauté après ce menu bien circonstancié, bah on va commencer par écouter une carte postale qui nous arrive d'Amérique centrale et qui n'a rien à voir avec tout ça.
Salut la Brésil team. Alors un petit coucou ici en direct depuis San Cristóbal de las Casas au Mexique. Que vous dire, j'ai débarqué au Guatemala le 12 octobre. Et j'ai commencé tranquillement à remonter le pays et la frontière à peu près en même temps que 7000 Honduriens et Honduriennes qui ont quitté le Honduras. Je ne sais pas si les nouvelles arrivent bien en France, mais en gros, c'est des milliers de gens qui n'arrivent plus à survivre sur place pour cause d'extrême pauvreté et d'extrême violence, puisque les maras, les gangs hein, de jeunes... les extorquent et les tuent si les gens jouent pas le jeu, donc il n'y a plus moyen de rester sur place. Et ils ont eu la grande idée de bouger en bande, donc ils sont partis à 7000. Je les ai croisés mais pas vus au Guatemala, à Guatemala Ciudad. Ils ont continué à remonter jusqu'à la frontière du Mexique. Au Guatemala, ils ont un certain soutien de la population, j'ai l'impression. Et le gouvernement les a laissés passer, seulement la partie la plus trash du chemin, c'est le Mexique, où là, ils se sont fait beaucoup gazer, il y a eu une espèce de bataille à la frontière, il y a eu au moins 2 morts, je crois. Et puis ils continuent à remonter jusqu'à ce qu'ils arrivent à la frontière avec les États-Unis où Trump menace de déployer à peu près 15 000 soldats à la frontière. Donc ça va pas être très rigolo. En parallèle, ça donne quand même des idées puisqu'il y a encore une ou deux caravanes qui sont parties du Honduras et une qui part du Salvador. Il y a des gens qui partent du Guatemala aussi. Bref, l'Amérique centrale crève la dalle et essaye de remonter là-haut, même si c'est pas vraiment le rêve américain. Je crois que là, ça, ils ont bien compris, mais néanmoins, j'ai l'impression que rien n'est pire que là où ils sont et où elles sont. Voilà, donc ça se passe comme ça. Nous, on n'a pas pris la même frontière, donc on peut juste suivre par le candidaton des gens avec qui on discute et puis les infos, qui sont pas méga réjouissantes. Et puis voilà, nous on a passé par une frontière par contre hyper tranquillou, où limite on ne demande même pas tes papiers. On est en zone militarisée, hein, c'est le Chiapas, mais ça se voit vraiment pas beaucoup parce qu'à San Cristobal c'est un peu Wawashland. Il y a de tout, hein, il y a beaucoup de touristes et je suis mal placée pour dire quoi que ce soit puisque je suis en balade aussi. Ça fait des drôles de choses, il y a des mélanges, des gens qui passent juste... ramener un t-shirt d'un mec cagoulé et puis d'autres qui restent plus longtemps, qui filent la main, il se passe des trucs assez chouettes. On a vu le CIDESI qui est un centre de formation pour les jeunes des communautés autonomes qui fait assez rêver puisqu'on peut mélanger vraiment savoir pratique, savoir intellectuel et ça réfléchit grave. Et puis voilà. Voilà, il se passe pas mal de trucs, je raconterai peut-être plus la prochaine fois, je vous embrasse, j'espère que le climat s'est pas trop refroidi et que vous êtes bien au chaud au studio, bras bisous.
Il paraît qu'ils ont vu des pingouins à Carcassonne.
Ah ouais ?
Réchauffement climatique.
Mais les pingouins, ça vit dans le froid.
Refroidissement climatique.
Bras zéro déchet.
Excusez-moi, monsieur. Vous courir après dans la rue ?
Oui.
Je vous ai aperçu ? Oui. Et donc, je crois reconnaître en vous un ardent défenseur du réchauffement climatique, un militant de la première heure pour le réchauffement climatique, car, dites-vous, je cite, ouvrez les parenthèses, j'ai froid.
Non, mais si on se réchauffe, il faut manger beaucoup de climat. Et il faut le réchauffer à feu doux. Il ne faut pas trop le réchauffer. Quand tu réchauffes trop, il y a la vapeur qui monte sur votre la fois. Après,
tu réchauffes à un micro-ondes.
Non. Au gaz.
Au gaz, mais tu as éteint le gaz. Parce que le réchauffement climatique, tu as éteint le gaz. Oui, mais tu as éteint le gaz.
Si tu l'éteins, il ne va pas réchauffer. Mais donc, mettre le climat dans un bol. Et après, il faut attendre un peu, mais des fois quand il réchauffe trop, et ben la température déstabilise tout, et là ça fait n'importe quoi. Ça fait par exemple une fois, moi je me rappelle, j'avais trop réchauffé, et ben le vapeur est monté sur dans les plafonds, et la pluie c'était l'inondation.
C'était
même pas en hiver, alors c'est un complètement fou, n'importe quoi. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi avec le pluie. C'est un légume. Non, mais vous rigolez, mais c'est vrai. Il y en a qui vont prendre le fruit. Le fruit de l'histoire, de la météorologie.
Oui, alors.
De la météorologie, je ne sais pas, l'un des deux.
Et donc, monsieur M, vous comptez faire des manifestations pour promouvoir le réchauffement climatique?
Il faut nous restituer parce que maintenant, personne ne bouge le climat. Il faut le planter
à quelle saison?
Ça, c'est une bonne question. Franchement, moi, c'est tout. Hors saison.
D'accord. Et vous le plantez donc dans le sol?
Oui, bien sûr. Si vous le plantez dans le ciel, dans la zone, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui s'agrandit, ça fait un trou dans le ciel.
La couche d'ozone.
Voilà. Et de la couche d'ozone. C'est une couche dans une zone particulière où si on plante le climat dedans, et bien le climat prend beaucoup de place et ça fait des trous effroyables. Non, il vaut mieux que ça soit encore, ça reste dans le sol.
D'accord.
Dans le sol. Pas complètement dans le sol. La surface, quoi. Ses racines.
Il y a d'autres personnes qui vont intervenir dans cette émission. On vous réinvitera.
Oui, mais moi, c'est juste une spécialiste.
Ah, bah ça, oui, c'est pour ça que.
Pas possible, quand même.
Monsieur, s'il vous plaît, vous dérangez la civilisation.
Merci beaucoup pour votre intervention. Au revoir,
monsieur. Non, mais parce que si au bout d'un moment ça continue comme ça, au bout d'un moment le réchauffement climatique, c'est votre faute.
Raconter des salades, disent que la terre est en danger, disent que notre planète est malade. Ils font flipper ces écolos à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo, et pourquoi pas voter Beauvais. Moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM. Climat fond, 300 à l'heure, total GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Niquons la planète.
Avec quelques gestes, est-ce que tu penses pouvoir sauver la planète?
C'est ça ta question, ça.
Je pense pas pouvoir sauver la planète. Après, j'essaye de le faire, mais je pense pas y arriver.
Trier mes déchets.
Pas trop jeter des choses dehors, c'est ça. Les papiers, les bouteilles, les canettes, couches, les lingettes.
Économie d'eau.
Bah, j'essaie de manger moins de viande. J'essaye de trier un maximum ce que je peux. Moi, j'habite à Paris, donc c'est un... Enfin, c'est... J'ai le commerce de proximité, c'est pas trop ça, donc j'essaye de faire avec, quoi, de trouver des AMAP, etc.
Avec quelle activité quotidienne vous pensez que vous détruisez l'humanité?
Le fait de vivre une vie normale, on pollue. J'ai un scooter, je pollue.
Honnêtement, là comme ça, je vois pas. Je suis sûr qu'il y en a. Hein. mais...
T'es sûr que tu détruis l'humanité ?
L'humanité, non, mais je suis sûr qu'il y a un truc dont duquel je suis pas au courant et qui a un effet négatif. Il y en a forcément... Bon, là, je trouve pas comme ça, mais j'espère que non. Mais je garde la possibilité qu'il y a quelque chose et que dans ce cas-là, si jamais je trouve, il faudra que je fasse quelque chose à propos de ça, quoi.
Donc moi, je pollue un petit peu, tu pollues un peu, elle pollue un peu. C'est notre société qui pollue. Après, on peut faire des gestes pour diminuer. Choisir ce qu'on achète ou par exemple ne pas aller travailler. Donc, je travaille pas, je ne pollue pas. Mais bon, après, je mange pas.
On est dedans, effectivement, c'est notre culture, c'est la façon dont on s'est développé jusqu'à présent, qui fait qu'effectivement, donc, c'est la société. Mais la société est en fait d'individus, effectivement. Et donc, ça signifie que dans la hiérarchie, il y a forcément des responsabilités plus importantes. Et après, à notre niveau à nous, effectivement, on peut faire. Mais je pense quand même qu'il ne faut pas avoir la naïveté, même s'il faut le faire, hein, je ne remets pas en cause la naïveté de dire que si, par exemple, on trie, nous, nos déchets à notre niveau, et qu'on essaie toujours de nous culpabiliser, c'est parce qu'on est la plus grosse masse, donc forcément, on culpabilise, n'est-ce pas ? Que c'est, pour autant, c'est nous qui polluons le plus. Je ne pense pas.
Les responsabilités sont multiples, mais je pense que c'est un système sociétal qui est assez tentaculaire et qui, en gros, le capitalisme, quoi, qui est un mouvement qui a tellement bien fonctionné pendant tellement longtemps que de manière générale, il se pense indestructible, en fait. Ce qui est assez logique parce qu'il a tellement fonctionné vraiment bien. Et le problème, c'est que, en fait, ça fonctionne pas. Enfin, ça fonctionnerait avec des ressources infinies, quoi. Ce qui n'est vraiment pas le cas. Et donc, je pense que tant qu'on n'a pas mis fin au capitalisme d'une manière ou d'une autre, on s'en sortira pas, quoi.
Quel est le milliardaire qui accepterait de dire on consomme plus, on pollue plus, quoi ? Quel est le groupe d'actionnaires qui dirait « Bah oui, mais si on arrête de polluer, on n'a plus de sous. »
Dire, on récupère les déchets, on fait de l'économie, de la nouvelle économie verte. C'est un marché de dupes, parce que au-dessus, ils en ont rien à faire, sauf s'ils peuvent en faire du fric. Point. Voilà.
Je crois pas au capitalisme vert, quoi, par exemple. Je vais pas vous mentir, je suis assez pessimiste sur le sujet. Et je pense qu'il va y avoir je pense pas que l'humanité va s'éteindre ou quoi, mais je pense qu'il va y avoir un effondrement économique qui va arriver dans les prochaines 10-15 ans, je pense.
Maintenant, on le sent plus proche, forcément, parce qu'on le ressent quand même bien. On voit bien qu'il y a des changements, ça c'est évident. C'est évident qu'il y a des changements qui sont inquiétants, sauf si on ne veut pas le voir, quoi. Mais donc, du coup, c'est bien pour ça que maintenant ça réagit. Mais ça réagit, et du coup, ils comptent bien là-dessus, mais ils font refondre l'économie là-dessus. Et puis, c'est nous qui devons. Mais quand je dis c'est nous, c'est simplement être lucide là-dessus. Mais en même temps, je ne dis pas ça juste pour le dire comme ça. C'est parce que ça ne suffit pas. C'est pas à ce niveau-là que ça... Que nous, on le fasse. Si, c'est bien. Ça, c'est évident. Mais à cette échelle-là, de la Terre et de la masse, je veux dire, c'est pas la masse en bas qui... Puisque c'est pas nous qui... On n'a pas franchement le pouvoir. Hein.
Les savants, ils cherchent des étoiles ou des planètes où on puisse refaire la vie, quoi. Pour quitter pour une Terre, on va en pourrir une autre. Je pense qu'il n'y a pas.
Et ça sera un marché.
Brasero cherche toujours à être au cœur de l'information. Aujourd'hui, c'est un entretien exclusif avec un homme qui, après avoir été sous le feu des projecteurs, souhaite aujourd'hui garder l'anonymat, et après avoir été vedette de la télé, ministre, souhaite parler franchement, dans des médias vraiment libres. Monsieur X, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi, après avoir été au cœur du pouvoir, vous choisissez de prendre la tangente ?
Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que nous assistions, globalement, les uns et les autres, à la gestation d'une tragédie bien annoncée, dans une forme d'indifférence. On s'évertue à entretenir, voire à réanimer, un modèle économique, marchand, qui est la cause de tous ces désordres. C'est un enjeu culturel, sociétal, civilisationnel, et on ne s'est pas du tout mis en ordre de marche pour l'aborder comme cela. Alors nous faisons des petits pas sur un enjeu aussi important. Est-ce que les petits pas suffisent ? Je me surprends tous les jours à me résigner. tous les jours à m'accommoder des petits pas, alors que la situation universelle au moment où la planète devient une étuve mérite qu'on se retrouve et qu'on change d'échelle, qu'on change de scope, qu'on change de paradigme. Le modèle dominant qui est la cause, est-ce qu'on le remet en cause? Et on me dit, mais prends ton temps, sois patient. Mais ça fait 30 ans qu'on est patient. Ça fait 30 ans qu'on laisse les phénomènes se dérouler, ils sont en train de nous échapper.
Tout de même, chaque geste individuel, chaque apport, chaque petit pas est un élément de plus contre ce qui nous arrive.
Mais vous croyez que la situation climatique s'accommode des petits pas? Vous croyez que l'état de la planète s'accommode des petits pas? Vous croyez que les inégalités qui s'exposent dans un monde qui aujourd'hui est connecté s'accommodent des petits pas? Mais ça fait 40 ans qu'on s'accommode des petits pas et c'est pour ça qu'on est dans une situation qui nous dépasse. On recherche une croissance à tout crin, sans regarder ce qui appartient à la solution et ce qui appartient au problème.
Alors, si on ne fait pas partie de la solution, on fait partie du problème. C'est un slogan assez radical. Vous pensez que l'on peut attendre quelque chose du gouvernement ?
J'aurai une réponse qui est très brève. Non. Rien. 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 Voilà. Vous savez, ça se joue... Comment vous expliquer ? Je ne crois plus dans ce mode de fonctionnement, en l'État. Qui a le pouvoir? Qui gouverne? Il nous pourrit la vie au quotidien.
Vous êtes anarchiste?
Je pense qu'au moins on peut m'accorder des convictions.
Mais alors, qu'est-ce que vous proposez?
J'ai pas forcément de solution. C'est un travail collectif. Où sont mes troupes? Qui ai-je derrière moi? Dans des choses très concrètes. Pas d'éoliennes, pas de centrales nucléaires, pas de centrales thermiques. On additionne tous les refus, tous les militants, toutes les associations qui se battent au quotidien sur le terrain et depuis des lustres. Parce que regardez, il y a de telles exigences sociales légitimes, de telles souffrances quotidiennes, palpables. Posons-nous une question centrale sur notre propre responsabilité, sur nos propres contradictions. Est-ce que notre société est bien prête à des grands changements? Est-ce qu'on est prêt à remettre en cause nos modes de consommation, nos modes de production? C'est cette question qu'il faut se... Est-ce qu'on est capable politiquement sur ces sujets-là, encore une fois, comme je l'ai appelé, à une forme d'union nationale, parce que c'est l'avenir de nos propres gamins qui est en cause. Est-ce que vous croyez que l'Europe va pouvoir vivre en se tournant les pouces alors qu'on a infligé à l'Afrique un basculement climatique, que leurs terres deviennent totalement stériles? Mais c'est ça les vraies questions qu'il faut se poser.
Vous êtes bien...
Non, attends, là, c'est pas possible. Change la lumière, vas-y. Ah oui, tu mets une ampoule basse consommation. Vas-y.
Vous êtes bien à l'écoute de Canal
Attends,
Sud.
Attends, mais qu'est-ce que c'est? Prends un éco-cup, là, plutôt que ton verre en verre.
Vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud.
On peut baisser le chauffage et c'est bon.
Vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud, 92.2.
Bras zéro déchet.
Ici, en France, en Europe, en Amérique du Nord, dans nos vieux pays riches, quand on parle de dérèglement climatique, on pose la question des déchets que produisent nos modes de vie. On réfléchit à leur impact sur l'environnement ou à leur contribution à l'effet de serre. On s'inquiète du plastique qui envahit les océans, des hormones qu'avalent les poissons, des gaz que rejettent nos bagnoles ou nos centrales à charbon, des déchets nucléaires qui s'entassent, de l'obsolescence de nos objets connectés ou du gâchis d'éliminer dans nos poubelles des matières qui peuvent être réutilisées. Alors, on invente de nouveaux plastiques qui se dissolvent dans l'eau, on fait du vélo, on plante des champs entiers d'éoliennes, on creuse des caveaux nucléaires à 500 mètres sous terre et on trie nos déchets. Et la vie peut continuer à peu près comme avant, avec de nouveaux business à conquérir et de nouvelles technologies à inventer. Et on peut conserver les mêmes logiques, le même confort, la même organisation, les mêmes industries et la même tête dans le même sable. Mais ici, en France, en Europe, aux États-Unis, dans ces vieux pays riches les plus consommateurs et donc les plus pollueurs, on fait semblant d'oublier que ces déchets sont les restes de produits de consommation. Et on ne parle que très peu du fait qu'ils sont fabriqués et transportés quasiment gratuitement par des heures de travail d'esclaves. À l'apéro des adhérents de l'AMAP du quartier, on évoque vaguement les dizaines de communautés humaines littéralement décimées sur les plans physiques, social et culturel par cette exploitation. Et bon, entre deux clics sur notre smartphone pour payer un Vélib, on se refuse carrément à se dire que c'est notre organisation économique, sociale, technologique et politique, qu'on appelle pudiquement le capitalisme, qui a mis à notre service depuis plus d'un demi-millénaire ces territoires et ces êtres humains. Aujourd'hui même, 5 novembre 2018, pendant qu'on met l'emballage de notre steak bio nourri au soja transgénique dans la poubelle jaune, cette organisation sociale et économique qui nous apporte tant de confort, d'objets pratiques, de sécurité et d'espérance de vie, continue de soumettre à sa voracité des millions d'hectares de territoire et les milliards de formes de vie qui les habitent. Et on s'inquiète que des poignées d'êtres humains sans habitat et sans ressources viennent frapper à notre porte pour avoir quelques miettes du festin. Des migrants et migrantes qu'on appelle pudiquement climatiques ou cyniquement économiques et qui veulent s'extraire elles aussi de cette condition de dépossédés, de colonisés, d'esclaves de notre insouciant bien-être. Et ici, en France, en Europe, aux États-Unis, dans ces vieux pays riches pollueurs et issus des Lumières, où la nature et l'être humain sont dissociés, où la technologie permet de maintenir le rêve éveillé de la multitude et la domination souriante des puissants, où notre modèle de société se croit être LA société humaine dans son ensemble, et où la liberté individuelle de jeter sur le voisin est sacrée, tant que le voisin ne la ramène pas trop fort. Bref, ici, on ne parle à peu près jamais du fait que ces produits de consommation qui se transforment en déchets sont d'abord des mélanges de matières extraites du sol, du sous-sol, de l'air, de l'eau et de la lumière. Et encore moins du fait que ces éléments sont extraits en quantité considérable, démesurée même, grâce à des procédés technologiques qui anéantissent des milliards de kilomètres carrés de territoire chaque année. Des entreprises d'extraction intense sous haute protection militaire qui produisent en quelques années des déserts stériles et morbides, envahis de poussière, des paysages lunaires inhabités et inhabitables, des zones sans plus aucune forme de vie, ou presque. Autrement dit, ici, quand on parle de dérèglement climatique, on ne fait surtout pas référence au fait que c'est notre organisation sociale dominante qui provoque l'écroulement irréversible d'équilibres biologiques complexes à l'échelle planétaire. Et trier nos déchets ou faire du vélo n'y change presque rien.
Bonsoir à tous. Large partie de la France et des températures aussi basses, ça faisait longtemps, très longtemps.
Tenir le grand débrief des marchés de Paris à New York, le duel de l'écho sur une question...
Alors voilà, bien que quelques illuminés le répètent depuis au moins 50 ans, notre société capitaliste, raciste, patriarcale et techniciste, bref, riche, blanche, virile et armée, prend peu à peu conscience de l'imminence du désastre au fur et à mesure que les catastrophes s'accumulent et que les pauvres gens débarquent sur nos côtes.
La première, c'est d'abord, il faut une Europe qui protège ses frontières. Pas une Europe des frontières ouvertes.
Et elle répond en enfonçant un peu plus sa tête d'autruche mazoutée dans le sable bitumineux. Allez écouter, nos chantres du progrès, il nous faut renforcer la violence de nos mécanismes, de nos dissociations, de nos exclusions, de nos dominations. Tout ça en chantant que c'est la faute de tout le monde et donc de personne.
Estimation pour la croissance du troisième trimestre dans ses dernières prévisions.
Et en nous promettant que ça va passer, ça va passer, ça va passer, même si ça frotte un peu. Mais ne vous inquiétez pas, ma bonne dame, nos ingénieurs travaillent dur pour conserver votre niveau de vie sous la barre des 2 degrés supplémentaires et nos industries médiatiques et culturelles produisent beaucoup pour ne pas que vous vous fassiez trop de soucis.
Qui les attendait. On a fait chou blanc.
Aucune empreinte et l'endroit était un peu trop sale pour pouvoir espérer y découvrir.
Dites, j'ai les doigts tout gras avec ce truc, ça poisse.
Et non, on ne peut pas résoudre seul les contradictions qu'on nous impose.
Plus possible de faire comme si de rien n'était, il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre.
Pendant ce temps-là, à Esquel, Cordoba, Ocachi, en Argentine, à Kobané, au Rojava, à Tambo Grande, au Pérou, à Notre-Dame-des-Landes, à Strasbourg, à Marseille ou à Bure, en France, à La Paz, en Bolivie, à Hambourg ou dans la forêt d'Ambar, en Allemagne, à San Salvador Atenco, à Oaxaca ou à San Cristobal de las Casas, au Mexique, à Riace, à Lampedusa ou dans le Val Susa, en Italie, à Standing Rock, dans le Dakota, à Al-Hoceima, au Maroc, à Gaza, en Palestine, et dans des dizaines d'autres territoires en résistance à travers le monde, des communautés d'êtres humains, des meufs, des chômeurs, des communistes, des trans, des migrants, des populations autochtones, des citoyennistes, des ouvrières, des homos, des parents, des anarchistes, des pauvres, des moins pauvres, des sorcières, des black blocs, des exploités, des écolos radicaux, des enfants, des féministes, des paysannes, des intersexes, des difformes, des pas normaux, des noirs, des basanés, des blanches, des prolos, des grands-parents, des antispécistes, des légalistes, des pirates, bref, des amoureux et amoureuses de la vie sous toutes ses formes s'organisent collectivement pour construire ici et maintenant le monde d'après. En même temps, ils et elles s'activent ensemble à détruire physiquement et moralement ce monde capitaliste de mort-vivant, ce poulpe extractiviste zombie et ses multiples ramifications, dominations et exploitations qui nous promettent des lendemains verts, stériles et militaires. Et elles font ça tout en faisant du vélo et en triant leurs déchets, loin de tout purisme théorique révolutionnaire. et loin aussi de la COP21, de ses calculs de taxes carbone et de ses fausses promesses de tueurs en série en costume 3 pièces. Il s'agit maintenant de se remonter les manches et de mettre les mains dans la terre, de renoncer à une bonne partie de nos zones de confort, de tisser des ponts entre toutes nos luttes en mettant de côté nos pinailleries théoriciennes et de démonter pierre par pierre, collectivement, mentalement et physiquement, les structures du désastre. Bref, d'alimenter plus fort le brasier qui consumera le vieux monde.
Et ce qui me navre, moi, c'est qu'on organise aujourd'hui, je pense notamment à ces jeunes qui peuvent avoir un idéal, et tout le monde en a, on en a eu aussi quand on était jeunes, je ne voudrais pas que ces actions se transforment demain en une forme de djihadisme vert.
On défendra nos terres, nos forêts, nos rivières afin qu'elles prolifèrent. On fera face aux violences policières anti-autoritaires. On a choisi d'être solidaires. La politique, c'est cette maudite logique de profit mortifère. D'ordinaire, humain si en terre. Selon les pronostics, nos grosses villes ont 4 jours d'autonomie alimentaire réalisée. On est dépendant du pétrole. Si les ressources s'écroulent, elles s'écrouleront avec l'humanité. À moins qu'on pense à relocaliser, à jardiner nos qualités, à se radicaliser. Admirer le capital, pour lui c'est un festin. Il investit dans le béton qui ne fait qu'infester les terres et qui s'étend largement. Ainsi tous les 7 ans l'équivalent d'un département disparaît sous des parkings, des voies ferrées, des interparcs et des aéroports. Mais un espoir est né. Autour des marécages, levons les barricades. Et que l'état dégage, car la ZAD vivra. C'est ça le paf parle, le djihadisme vert. On dilapide vos machines de guerre, Kaya Wakba. Planquer les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, les renvers sont là. Kaya Wakba, hors des sondes et des radars. En transition car votre monde est un cadavre. Planquer les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, les renvers sont là. Kaya Wakba, hors des sondes et des radars. En transition car votre monde est un cadavre. Je lâche un freestyle en zone humide, à la gloire des marécages. À la faune et à la flore de nos vies, que c'est parigage. Résistance et sabotage, des maquis au bocage. Vos belles cages de béton nous tiennent toujours en otage. Moi j'ai grandi en zone urbaine et mes poumons sont pleins de crasse. Je ne respire plus que vos excès, citadins de masse. Et à la place de vos parcs éco-responsables que l'on brûlera, on mettra quelque chose de plus indispensable. Nature sauvage, irrégulière, irrégulable. Loin de la croissance verte et de votre développement durable. C'est du rap décroissant, un hymne pour la jungle. Pour les frères du testé et pour les frères d'Agen. Kaya Wakba, c'est clair et sans concession. C'est sur le bûcher qu'on réglera tous nos contentieux. Précis et conscience que le système met la pression. Normal que toutes les actes soient si précieux. Planquer les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, les renvers sont là. Kaya Wakba, hors des sondes et des radars. En transition car votre monde est un cadavre. Planquer les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, les renvers sont là. Kaya Wakba, hors des sondes et des radars. En transition car votre monde est un cadavre. Sous le poids du ciment, on atteint la rage de raison. Nos vies asphyxiées sous une plaque de béton. Éclairés au néon, nos rêves ont l'air sales. Quand on ne les trouve pas dans les rayons d'un centre commercial. Leur ciel abrite un système violent. Et leur kérosène carbonise mon cerf pour leur valeur de la République. Ou intérêt privé vu qu'ils ne font que réprimer au nom de l'intérêt public. Les dernières pelouses sont entre des poteaux de foot. Le monde entier comme une immense serre dans ton route. Coûte que coûte, anticapitaliste et décroissant. Vent le vent et bien rien. Démocratie dans leur bouche réactionnaire. Affame les campagnes, engraisse les actionnaires. La tonnerre comme un retour à la réalité. Kaya Wakba, le meilleur peut encore arriver. Planquer les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, les renvers sont là. Kaya Wakba, hors des sondes et des radars. En transition car votre monde est un cadavre. Planquer les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, les renvers sont là. Kaya Wakba, hors des sondes et des radars. En transition car votre monde est un cadavre.
Aujourd'hui, dans notre émission spéciale Brasero sur le réchauffement climatique, nous recevons un invité
exceptionnel, puisque nous accueillons dans le studio de Canal Sud, en chair et en os, le président des États-Unis, j'ai nommé Donald Trump. Bonsoir, monsieur Donald Trump. Vous, qui êtes à la tête d'une grande puissance mondiale, pouvez-vous nous donner votre avis sur le réchauffement climatique ?
Je voudrais remercier
encore de l'honneur que me fait Brasero en m'invitant sur votre plateau. Par contre, je suis extrêmement déçu que votre équipe n'ait toujours pas compris mon propos, que je me martèle, pourtant à tort et à travers, dans tous les médias que je possède. Et croyez-moi, ils sont nombreux. Le réchauffement climatique est une pure invention des Chinois. Voyez-vous-même, la Chine est une puissance montante, mais qui ne nous arrive pas à la cheville. Comme tous les mauvais perdants, les pouvoirs politiques ont cherché auprès des chercheurs les plus médiocres un moyen de freiner l'industrie états-unienne. Ils sont jaloux de notre intelligence supérieure et ils nous font des croche-pattes pour essayer de nous faire tomber. Mais notre puissance économique et industrielle est plus forte qu'une droite dans leur face. On va tous les niquer.
Merci. Tout de même, face à des conséquences tangibles comme l'augmentation de la température moyenne et une fonte évidente de la calotte glaciaire, quelles sont vos solutions ?
Je ne comprends pas votre question.
Par exemple, contre la montée des eaux, que proposez-vous pour protéger la population ?
Vous savez, mon pays a acquis un savoir-faire très précieux ces dernières années. Avec la collaboration de pays amis comme Israël, par exemple, concernant des solutions efficaces et dissuasives face à un danger physique flagrant. C'est comme pour tout ce qui vous dérange et qui veut envahir votre territoire. Que ce soit des migrants, terroristes, de l'eau, s'il le faut, nous ferons un mur gigantesque. Et je suis bien sûr que les ingénieurs en travaux publics français seront enchantés de nous apporter un appui technique.
Sans doute. Mais en parlant du savoir-faire français en termes d'environnement, notre président Emmanuel Macron a été décoré du titre de champion de la Terre par l'ONU en septembre de cette année. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Vous savez, j'ai aussi été champion de tonte de gazon en 1987. Ça, c'était aussi un prix tout vert. Pourtant, ça ne m'empêche pas de préférer les gratte-ciels et les puits de pétrole aux vertes prairies improductives. Je crois qu'il va gentiment poser son trophée merdique sur la cheminée de l'Élysée et continuer à recouvrir des surfaces agricoles par des panneaux solaires, puisque c'est ce que lui a permis d'obtenir ce prix. Et si les gens ont faim, ils n'auront qu'à manger les asticots qui se baladent en dessous, puisque c'est la mode.
Merci pour votre conseil gastronomique. Dernière question. D'après de nombreux scientifiques très sérieux, le réchauffement climatique existe et il est même plus important que prévu. On remarque par exemple que les émissions dues au transport routier ont augmenté en 2017, contrairement à toutes les résolutions qui avaient été prises par les grandes puissances. C'est ce que montre le rapport du GIEC sorti le 8 octobre 2019.
The GIEC. Voilà enfin une question importante.
Fucking GIEC, stop talking to me about poor penguins on a nice flow that melts and finally tackling the real problems.
The real Mexicans were still our jobs. The real migrants who come from Honduras to see our migrants.
Mais il est mort là ? Quelqu'un l'a tué ?
Attends, il y a du sang partout.
Quelqu'un est entré dans le studio de Canal Sud et a tué Donald Trump.
Oh putain.
Le président n'est plus.
Jingle.
Le réchauffement climatique, c'est la fin de Fort Boyard.
Non mais c'est la fin de la Bretagne. Qui est-ce qui fera du beurre salé ?
Brasero déchets.
Alors oui, effectivement, ouais, y a plein de choses qui sont en train de changer. Ben, le départ de tout, ça a été en 2003. Quand il y a eu la canicule en 2003, on a vraiment vu des choses changer. Mais de 2003 jusqu'à 2013-2015, c'était lent, c'était très lent. On voyait des arbres qui crevaient, des insectes qui apparaissaient, des cycles d'insectes qui se transformaient. Et puis là, depuis 2015, donc depuis 3 ans, on a vraiment l'impression que ça s'emballe, quoi. On a de plus en plus chaud, ça c'est sûr. Mais après, ça a une vie pleine de choses. Des chênes verts. Pourtant, le chêne vert, Dieu sait si c'est un arbre qui ne craint pas la sécheresse, qui est hyper résistant à la sécheresse. Il y a des chênes verts, des pans entiers de montagnes de chênes verts qui sont en train de mourir. Les buis sont attaqués par la pyrale du buis. C'est un insecte, il y a 3 ans, on ne savait même pas ce que c'était. C'est un truc qui est apparu là depuis 3 ans. Les migrations des animaux se font à des dates qu'on avait jamais vues. Donc voilà, c'est vrai que quand tu es au contact de la nature tous les jours, c'est des choses qui te sautent à la gueule, quoi. Tu t'aperçois que ça devient problématique. Et puis nous, alors, ça a des incidences sur l'environnement. Comme nous, on vit de l'environnement, ça a des incidences sur notre vie professionnelle et sur l'économie de nos exploitations, de nos fermes.
Et par exemple, par rapport aux brebis, il y a quoi comme incident direct du réchauffement climatique ?
Ah, par rapport aux brebis, c'est le pâturage. Hein. On a des périodes de sèches. On a des moments où le soleil est brûlant et du coup, même s'il y a de l'eau dans la terre, la végétation est brûlée, les feuilles sont brûlées. Après, l'incidence, c'est qu'il y a moins de ressources. Alors, il y a moins de ressources au sol, mais justement, nous, avec Thomas, on a pris une race assez rustique, qui est la rayole, la race des Cévennes, et qui a une propension à bien manger des arbustes, à lever la tête pour chercher sa nourriture. Et du coup, s'il n'y a pas d'herbe, elle s'en sort toujours, elle, parce qu'elle va manger du lierre, elle va manger des feuilles d'arbres, elle va manger des arbustes. Voilà. Donc ça, je pense que de ce côté-là, on a un peu anticipé la chose de façon pas mal.
Et est-ce que t'en parles ou t'en entends parler avec des gens du village ou de la vallée des changements climatiques dans un truc concret, quoi, les gens...
C'est le sujet principal de la vallée. Hein. Ouais. En tout cas, tous ceux qui tournent autour de l'agriculture, de l'élevage.
Mais même les gens en conventionnel ?
Oui, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, je pense que ça les fait réfléchir un peu. Hein. Les mecs en conventionnel, ils se disent « Ouais, effectivement, il y a un souci, quoi. Ouais. » Alors, intellectuellement et psychologiquement, c'est compliqué de remettre en cause un système. Mais ils vont être obligés. J'en vois qui commencent à se dire non, on ne peut plus continuer comme on faisait avant. Hein. L'idée de... Nous, on a cette grande chance de transhumer à pied. Donc du coup, c'est vrai qu'on évite les camions, on évite tout ça. Et puis, le fait de transhumer à pied, ça habitue les bêtes à changer de végétation, à changer d'altitude, à changer de climat, etc. Et ça se fait très lentement à pied. Et donc du coup, c'est vrai qu'après, même en bas, quand tu as des bêtes qui sont habituées à changer progressivement, par rapport au changement du climat, elles aussi, elles s'adaptent. Lentement, mais elles s'adaptent. C'est de l'acquis, ça.
Je vais te dire que, paradoxalement, je vais te dire que non.
C'est pour ça que j'ai
regardé. On a eu des périodes, par exemple, si on se fie au vin, et si on repère le vin, 2003, et ça date. Je pense que le réchauffement, il est sans doute engagé, mais il n'est peut-être pas tellement perceptible, quoi. D'une année sur l'autre, il y a des variations. Mais je pense qu'il faut le voir à long terme. Et ça, je pense que c'est difficile de... Moi, dire que je l'ai observé, moi, je ne vais pas te dire que oui. Mais par contre, je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même une unanimité. Tout le monde, tous les scientifiques sont d'accord. Moi, je pense que c'est difficile de contredire 95% des scientifiques qui affirment ça. Mais après, dire réellement que moi, j'ai perçu Moi je dirais franchement non. On a eu des périodes plus chaudes, on a eu des étés plus chauds encore que ce dernier été, ici, honnêtement.
C'est aussi que souvent on dit tiens, il a jamais autant plu, il a jamais autant fait ça, et en fait, souvent c'est juste qu'il a pas fait ça depuis longtemps, mais ça arrivait aussi avant, tu vois, par exemple. Hier je disais un livre sur un curé qui écrit sur. C'est sur l'histoire de qui trouve ça aussi. Enfin, bref, ces gens, ils parlent de 1400 et ils disent que les automnes étaient déjà étaient très secs et tout ça. Enfin, tu vois. Enfin, maintenant, on va dire, oh, putain, l'automne est sec, c'est le changement climatique. En fait, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de changement climatique. Tout ça pour dire que le truc qui a changé, j'ai l'impression que avant, c'était plus alterné le temps. Alors, au printemps, il faisait beau, il pleuvait, Après, à l'automne, voilà, c'était plus sec. Mais c'était pas genre, tu vois, là, ça fait plusieurs années, on se tape 6 mois de pluie, et après 4 mois sans pluie, puis 2 semaines de grosse chaleur.
En mode tropical, en
fait. En mode extrême, et enfin, beaucoup de la même chose à la suite, tu vois. Mmh. Et ça, les vieux, ils disent que ça, ils avaient pas l'habitude. Mmh. C'est un truc que je peux voir ici.
Agur et Aore et Euskal Presoer.
Ça veut dire quoi ?
Salut et gloire aux prisonniers basques. Moi je préfère celui qui est marqué en dessous, enfin, sur le mur de l'autre côté.
C'est-à-dire ?
Capitalisme alekin bakelikas. Pas de paix avec le capitalisme. Un petit clin d'œil au processus de paix. Et encore au Pays Basque. Mais finalement c'est pas que la paix, enfin. C'est la paix entendue comme la fin du terrorisme, mais en fait c'est aussi. La fin, enfin en quelque sorte, l'institutionnalisation des luttes, la fin des mouvements sociaux et puis la paix sociale, quoi. Donc, le terrorisme, c'était pas qu'une revendication identitaire au Pays Basque, c'était aussi des mouvements révolutionnaires, anticapitalistes et pas forcément qu'une organisation en bande armée, tu vois. Et du coup, en fait, c'est un peu la fin de tout, quoi, avec le processus de paix. C'est pour. Brasero ?
Ouais, grave.
Bonjour Brasero.
En basque ça donne quoi ?
Egunon Brasero.
Ouais. Braseroak.
Braseroak. Kaixo kaixo Brasero kolagunak.
Petit conte qui crépite au coin
du Brasero.
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 Raconte.
Raconte.
Brasero raconte.
Qu'est-ce que tu racontes, Brasero ?
Qu'est-ce que tu racontes, Brasero ?
Eh, hey, Brasero, ça raconte quoi ? Brasero.
Brasero.
Ça raconte
quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ?
Tu la racontes ou tu racontes ?
Mais qu'est-ce que tu racontes, Brasero ?
Voici Monsieur Papillon, champion du tri sélectif. Un jour, son voisin lui dit
« Mais vos poubelles finissent comme les autres !»
Ce à quoi Monsieur Papillon répondit « Elles finissent recyclées, monsieur, car il ne faut que 269 canettes pour faire un beau vélo, 18 bouteilles en plastique pour faire un pull, 7700 boîtes de petits pois pour faire une automobile !» Convaincu, le voisin se mit à trier avec enthousiasme. Encore une démonstration de l'effet papillon. Éco-emballage, le petit point vert aux grands effets.
3 août 2035, Clermont-le-Fort. Trois personnes autour d'un feu, des déserteurs, des désertrices, se racontent.
Alors toi, t'es parti quand ?
Moi je suis parti il y a un mois à peu près. J'ai bossé pour l'ADEME, agence de l'État et de la maîtrise et du contrôle des gestes éco-citoyens. Mmh. Au début mon travail c'était de la com. Je savais utiliser un ordi, après le bac j'avais besoin de thunes. Normal quoi, je mettais en graphique ou en texte avec d'autres gens les campagnes pour les éco-gestes. Le tri, les achats raisonnés, responsables, gnagnagnagna. Bref, j'étais surtout à l'ordi en fait. Et ils appuyaient leur argumentaire sur « sauvons la planète » et « regarde, ça va vous faire faire des économies ». C'était relou, hein, c'était chiant, mais bon, c'était un taf quoi.
Ouais, ouais, non mais les éco-gestes, je connais là. Tu sais, moi j'ai 60 balais, mais pour moi ça a commencé avant en fait. Quand on nous a demandé de trier le verre, dans les années 90. Alors j'ai compris qu'on me demandait de faire un truc gratuitement, alors que jusque-là, je l'avais toujours fait en échange de petites monnaies. Ouais, je peux dire que c'est là la première fois que je les ai vus arriver avec leur travail gratuit sous fond de tri sélectif. Déjà, c'est débile leur truc, parce que le tri, c'est toujours sélectif. Tu fais du tri sans sélectionner, toi. Bref. Après le verre, le carton, le plastique et tout ça encore gratos. Essuyez leur désastre avec de la main-d'œuvre gratuite et responsable pour ceux qui produisent la merde n'est pas à la nettoyer. Et en plus, ça leur rapporte. J'ai essayé de me mettre en grève. J'ai arrêté de trier. Mais là, dès que je mettais une bouteille en poubelle, un autre travailleur choqué se précipitait dessus pour l'enlever. C'est comme ça que s'est initiée progressivement la culpabilité, le travail gratuit, qu'on nommait, comme t'as dit, éco-responsabilité. C'était le truc pour permettre au plus gros pollueur de polluer tout en croyant que le plus gros pollueur, c'est toi avec ta vieille 205 qui fait traîner une fumée noire sur des kilomètres.
Non mais c'est clair. Moi quand j'étais petite, je me disais, mais on fait des trucs hyper contradictoires. Par exemple, on utilisait 8 litres d'eau pour chaque passage aux toilettes, mais à l'inverse, fallait l'éteindre pendant qu'on se brossait les dents. Ou alors les cotons-tiges qui devaient disparaître, alors même que les produits bio étaient dans un emballage carton, puis réemballés dans des sachets individuels en plastique. On faisait des journées sans voiture à Paris, alors qu'à Orly, le même jour, il y avait 800 départs d'avion. On a interdit le purin d'ortie parce que c'était dangereux, alors que nos fruits et légumes regorgeaient de produits chimiques. On nous vendait des brosses à dents en bambou qui faisaient des kilomètres pour se vendre près de chez nous.
Ouais, mais ça, c'était avant quand même. Hein. Après, il y a eu la crise du pétrole, là, en 2028. C'est le cas. Ça a empêché la moitié du monde de se déplacer, de se chauffer, de s'habiller. Bah, là où je bossais, l'agence, elle a eu d'autres rôles. Au début, on avait des phrases types. Pour les personnes ou les collectifs là, qui remettaient en cause les campagnes et qui disaient que l'agence s'attaquait pas aux vrais problèmes. Genre l'industrie, l'agroalimentaire, les paradis fiscaux, etc. Désormais, ces gens-là, on devait les signaler, les fichiers.
Ah ouais, je m'en rappelle.
Dans mon service, à Toulouse, il y avait une équipe spéciale dédiée pour intervenir physiquement chez l'habitant ou dans les événements publics, contre ceux qui résistaient ou aux consignes de tri ou même ceux qui les appliquaient tout simplement pas.
Non, mais c'était hyper compliqué de résister. En plus de ça, il y avait une espèce de grosse pression psychologique. Le discours, il était flippant. En fait, ça faisait en sorte qu'on se croit tous responsables. Regarde, en fait, on nous disait des trucs et tu te disais, ouais, je veux pas que ma planète elle crève parce que j'ai pas éteint la lumière.
Du coup, ils avaient gagné. Et tu vois, à l'agence, par exemple, on déclarait les citoyens résistants comme individus menaçant l'équilibre climatique par refus d'obtempérer aux éco-gestes.
Mais oui, je me souviens de ça. Et encore, au début, ça allait parce qu'il y avait assez de ressources pour les pays riches. On consommait tout en étant pseudo-responsable. Mais quand les ressources ont commencé à manquer, là, il y a eu la politique du permis à point écolo. Ce qui se passait à l'échelle mondiale s'est reproduit à plus petite échelle. L'idée de la relocalisation du pillage, ils ont appelé ça. Le permis à point écolo, c'est ton droit à consommer. Plutôt qu'une certaine somme d'argent, tu as un droit d'usage sur les biens communs, lié à l'empreinte écologique de toi et de ta famille sur plusieurs générations. Au début, il y avait tout un discours des communs, de l'usage responsable, de « à chacun selon sa responsabilité ».
Ouais, bah tu vois, et après nous, on s'est retrouvés à faire des fiches sur des personnes, n'importe qui, ou des gens en particulier, des collectifs, des orgas. Mais l'agence, elle a constitué un bras militaire, une section de renseignement. Là, j'ai commencé à me dire que c'était dur, quoi. Enfin, moi, j'étais pas à l'aise, en fait.
Mais c'est clair. Et là, c'est parti en cacahuète totale. Au cinéma, selon ton origine socio-écologique, tu avais soit pas de place, soit une place avec pédalo pour alimenter le générateur, soit la place premium. Après, on a commencé à être classé en classe éco, éco plus, premium et privilège. Le calcul était fait par un algorithme qui faisait un savant calcul entre ton empreinte écologique et celle de tes ancêtres sur 2 générations. Si t'avais dans ta famille une grand-mère camionneuse, t'étais maudit sur 5 générations. Sortir de la classe éco était tout bonnement impossible. Du coup, c'était l'hygiène au sable pour pas gaspiller l'eau, manger froid sauf à Noël pour pas utiliser d'énergie et que des habits de récup. Pour s'en sortir et prendre un peu des éco-pecs, tu devais multiplier les éco-gestes. Trier les poubelles des premiums et des privilèges, donner des heures de pédalage à la centrale éco-électrique ou dans les éco-taxis.
Non mais à qui le dis-tu, moi, mon grand-père.
Ça fait longtemps, quoi.
Il livrait du gasoil. Du coup, on a morflé, mais sur 4 générations.
Ah, tu m'étonnes.
Mais à la base, pour lui, c'était un bon plan, tu vois. Il avait le monopole sur le fuel soviétique. C'était de la balle. Bref, moi, du coup, je peux vous dire que je suis un champion de la pédale. Pour réunir les éco-pecs nécessaires pour me nourrir, j'avais un plan bien rodé. J'étais le meilleur éco-taxi de la zone et en plus, je doublais les livraisons avec les éco-Uber Eats. Et puis un jour, paf, le drame, j'ai écrasé un hérisson.
Non.
Je suis passée en procès pour écocide. En plus, c'était une femelle et elle était enceinte.
Mais c'est ça qui était insupportable. Les soupçons permanents, les regards de biais, mais les peines absurdes. Alors, regarde-toi, des pauvres gens, ils avaient un accident. Ouais, moi, avec ça, là, moi, je me suis cassé, quoi, j'ai tout plaqué. C'est pas possible.
Ben, moi, j'ai fait un Antol. Où j'ai pédalé pour rien dans un complexe de cinéma pour privilège vers Tournefeuille là-bas. J'étais dégoûtée, plus d'avenir, j'étais désespérée. Quand j'ai eu purgé ma peine, je savais plus quoi faire. Alors là, je me suis mis à marcher. À marcher, mécaniquement. Je me suis éloignée de tout ça. Je me suis pas tout de suite rendue compte de ce qui m'arrivait. Après 2 jours, 3 nuits, je suis sortie des zones urbaines. J'ai réussi à me glisser sous les barbelés. Et j'ai continué à marcher. Jusqu'ici, en fait.
Moi, je suis arrivée ici après mon rendez-vous hebdomadaire à Écopôle Emploi. Vous vous souvenez de Écopôle Emploi? En gros, un jour, je passe à l'accueil chercher les clés de l'éco-vélo, avec lequel je devais aller pédaler 1 heure pour charger la batterie qui permettrait d'éclairer le bureau pendant mes 15 minutes de rendez-vous. Là, on s'est retrouvés à faire des tours de la place avec les 20 autres personnes qui avaient rendez-vous à la même heure que moi. Bon, au début, on se lance quelques regards, on voyait les autres pédaler en rond et je me disais « Mais pourquoi ils se barrent pas par la rue transversale ?» Et là, j'en vois une qui s'engouffre dans une ruelle. Et celui qui était derrière elle l'a suivi, et encore un autre. Et là, tous les uns après les autres, on s'est barrés de là avec nos vélos Écopôle Emploi. On passe devant leur bureau, où les LED commençaient manifestement à faiblir, il n'y avait plus de lumière et tout. Et ils faisaient une tête chelou et on a continué notre route. On s'est barrés.
On en est là.
Ce qui est sûr, je crois, c'est qu'on... On y retournera pas.
Ça c'est clair.
Non, c'est mort.
Savez-vous qu'au bureau, nous produisons 120 kg de déchets par an ? 120 kg, c'est beaucoup. Et pourtant, quelques éco-gestes simples permettent de réduire cette quantité d'un tiers. Un tiers, c'est 40 kg. Et dans l'entreprise Happy Service, on se lance.
Ton caméscope, flaque de sang, dire demander un scoop, la populace. Le flash, faut pas qu'elle le coupe. Les discours pacifistes qu'on nous lâche, faut pacifier la paix. Une colombe qui fait de l'audimat quand on la plombe de plein fouet, sa dame. Qui se prend un obus de l'ONU, ça se fait en se branlant. Avec un cigare dans le bureau, vu les bourses craquent, s'attache le globe. Je vois ça d'un mauvais œil, me transforme en cyclope et dis universaliste. À l'affiche, mon film va te faire mettre de l'univers. Tu m'y verras faire chin-chin avec Elsin. Fumer des pétards sans avaler la fumée avec Bill et jouer du saxophone. En grouvant comme George Clinton, je serai
serait l'agent secret qui traque un méchant en Irak, qui rend les occidentaux gentils, part dans le golf faire des parties, sous le manteau une artillerie, quoi décimer des ethnies dans une mallette, des traités faits pour mon prix Nobel à Helsinki. J'ai cette impression que les pays du G7 ne donnent qu'à la jet set. Faut qu'on jette cette richesse aux pauvres de notre pays, à nos anciennes colonies, à ceux qui crèvent de faim, de la Papouasie au fin fond de l'Asie. On a 70% des richesses et on se plaint, alors qu'on vit sur 2-5 milliards d'humains qui ont rien. Si demain ils se lèvent, ils seront Gulliver, et nous dans cet univers, on sera lilliputiens. Je voudrais voir les 5 millions d'exclus descendre dans la rue, demander des RMI et faire trembler le FMI. Mais dans le fond, faut mieux se taire que de grappiller le fonds monétaire. Sortez des bas-fonds prolétaires, réveillez-vous de cet état précaire. Faut grossir la facture de la facture, encore écarter la bresse, ce serait beau de décrier nos futurs. Mais moi je me tire, avant qu'on se tue et que tout sature avec le SMIC, je fais lâche et je me casse sur Saturne.
Si on dépense des milliards pour la conquête de l'espace, on se trouve. T'as cru que c'était pour sauver l'espèce,
et vous,
c'est pour sauver le jour où ça pète.
Et aller faire la même sur une autre planète.
Si on dépense des milliards pour la conquête de l'espace, on se trouve.
T'as cru que c'était pour sauver l'espèce,
et vous,
c'est pour sauver le jour où ça pète.
Et aller faire la même sur une autre planète.
Sur le monde, ils créent des fous parce que les mecs en ont marre d'avoir rien du tout. Et comment faire pour leur jeter la pierre pendant que les pauvres s'engraissent chez eux, progressent la misère. En parlant de progrès, parle plutôt d'éradication des forêts. Mais un jour ils paieront pour tout ce qu'ils ont fait. Ils tuent la faune, ils tuent la flore. Et le pire de tout, c'est qu'ils tutoient avec et que t'es d'accord. Leur putain de système libéraliste tend à créer une société d'individualistes où il n'y a pas de place pour les idéalistes. Chacun pour soi, tout le monde veut tout. Et t'arrives pas à suivre, crève, on s'en fout. Ça rend malade. Voir qui balance 600 missiles, 1 million de dollars sur Bagdad. Et dépense pas la moitié pour des gens malades. Parce qu'un connard, maître du monde, s'est fait sucer. Maintenant c'est en Irak qu'ils se font enculer. Ah, c'est tous ces bâtards me donnent envie d'hurler Allahu Akbar. Et pourtant, comprends que je suis pas musulman. Et une jifada sur cet état critique. La carotte de l'euro Hollande et de la monnaie unique. France pourrie, parti pris du RMI. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Normal que t'en aies à la casquette et que tu utilises les drogues pour te rabattre la tête.
Y'a
plus d'espoir à partir de la planète. Et on n'est pas prêt de concrétiser la conquête. Alors oublie, reste cramé dans ton taudis et prie pour que le paradis existe.
Si on dépense des milliards pour la conquête de l'espace, on se trouve. T'as cru que c'était pour sauver l'espèce,
et vous,
c'est pour sauver le jour où ça pète.
Et aller faire la même sur une autre planète.
Si on dépense des milliards pour la conquête de l'espace, on se trouve.
T'as cru que c'était pour sauver l'espèce,
et vous,
c'est pour sauver le jour où ça pète.
Et aller faire la même sur une autre planète.
Canal Sud 92.2.
Mais, qu'est-ce qui se passe là?
Mais non, 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 mais pédale plus vite là, il n'y a plus d'électricité.
Écoute de bras zéro.
Bras zéro déchet.
Et voilà.
Et ben voilà.
Ben c'est terminé.
Ben ouais.
J'ai chaud. Cru reconnaître la voix de Nicolas H tout à l'heure.
Nicolas Hula.
Nicolas Hula. En tout cas.
Bon, bah, merci de votre écoute.
Écoutez.
C'est vrai ça, merci beaucoup.
Mais
c'était là, super.
Le téléphone bah, sonne.
Ah, allô.
T'as oublié d'éteindre ton téléphone.
Qu'est-ce qui se passe là?
Allô. Chut, j'ai l'attaché de presse de la Maison Blanche.
Ah. Merde.
You are in direct to the studio.
Vous avez fait quelque chose du
corps?
Non, moi j'ai rien fait du corps.
Mais vous croyez que c'est
Nicolas? No, everything is under control.
Not Donald Trump. Je vous avais dit que c'était pas une bonne idée.
Je pense que ça se revend cher, les morceaux de Trump sur eBay.
Yes, tout se vend aujourd'hui.
I send you an email.
Je vous avais dit qu'il y aurait des personnes
contentes.
Dédicace à Loulou aussi. Vous avez
et à l'anniversaire d'Emma.
Joyeux anniversaire.
Et Ariella et Rota aussi.
Ben voilà.
C'était super. Et la prochaine, c'est sur quoi?
Sans doute avec plein de célébrités.
Allez, salut.
Au revoir.